100 et 500 francs. C'est un joli cadeau de Noël quand même.
Oui, à ce que je sache, c'est du jamais vu. Et c'est non seulement étrange, mais je pense qu'on peut dire que c'est suspect, pour le moins. D'autant plus que cet argent est arrivé en coupure de 500 francs. Gros billet, neuf. Donc on se demande vraiment d'où vient cet argent. Et l'explication qui est fort embarrassée, qui est donnée aujourd'hui par Édouard Balladur, fait plutôt sourire, puisqu'il nous dit qu'en fait c'était l'argent collecté auprès des militants dans les meetings de la campagne électorale et correspondant donc à la vente de badges, de pins ou autres t-shirts et casquettes à l'effigie de Monsieur Balladur.
Il y a eu une Balladuromania là, qui a permis de vendre des t-shirts avec la photo d'Edouard Balladur dessus. Exactement. À hauteur de 10 millions de francs, c'est quand même pas mal.
Donc il faudrait trouver des images d'archives des journaux télévisés de l'époque ou des journaux papier, tout simplement pour voir si effectivement les rues du pays étaient envahies de personnes arborant des t-shirts ou des casquettes à l'effigie d'Edouard Balladur, parce qu'il a fallu en vendre beaucoup quand même. Et d'autre part, ce qui est aussi intriguant, c'est que les militants à l'époque du RPR Balladurien était très généreux, puisque manifestement ils achetaient des casquettes avec des billets de 500 francs.
Alors moi je me souviens très bien qu'à l'époque je me baladais avec un t-shirt avec Édouard Balladur sur le t-shirt, j'étais absolument fan quoi.
Et vous l'aviez payé 500 francs ?
Exactement, j'avais les moyens. J'avais 20 ans, c'est l'âge où on est Balladurien quoi.
C'est l'âge où on est fou.
Il n'y a pas que nous qui trouvons ça étrange. Ces coupures de 100 et 500 francs qui arrivent dans quatre gros sacs au lendemain de la défaite d'Edouard Balladur. Il y a aussi les rapporteurs du Conseil constitutionnel qui doivent valider les comptes et qui, après audition d'Edouard Balladur, trouvent ces explications pas du tout convaincantes et proposent tout simplement le rejet du compte de campagne d'Edouard Balladur. Alors là, Edouard Balladur, il aurait été peut-être pas à la rue, mais enfin, il aurait été mal, parce que ça veut dire l'État lui aurait rien payé de sa campagne.
Absolument, et de toute façon, je veux dire, symboliquement, ça aurait été quand même assez fort que les comptes de M. Balladur soient rejetés au motif qu'ils présentaient des mouvements financiers suspects. Or, ce qui s'est passé, il y a eu manifestement un micmac au Conseil constitutionnel, puisqu'on sait aujourd'hui que les rapporteurs, ceux qui ont vraiment travaillé sur le terrain, qui ont épluché les comptes, concluaient que c'était anormal, qu'il n'y avait pas d'explication rationnelle et qu'il fallait rejeter ces comptes. Et pour autant, le Conseil constitutionnel, présidé à l'époque, il faut le rappeler, par Roland Dumas, a validé.
Roland Dumas, qui lui-même était pris dans une histoire de financement occulte et aussi par le biais de l'armement, puisqu'il s'agissait à l'époque des frégates de Taïwan. Donc finalement, il y avait une histoire d'armement qui était couverte par un président du Conseil constitutionnel, socialiste lui, mais également pris dans les mêmes histoires.
On n'a pas de preuve de ça, mais on a des indices, on a des éléments qui sont pour le moins troublants.
1998, la dernière des six frégates françaises est livrée en grande pompe à Taïwan.
France 3.
Pourtant, 10 ans plus tôt, Roland Dumas, alors ministre des Affaires étrangères,
6 août 2008,
avait mis son veto à ce marché qui déplaisait à la Chine. Thomson, le fabricant des frégates, va alors tenter d'infléchir la diplomatie française en faisant appel à des hommes d'influence. Il va les trouver chez Elf, en la personne d'Alfred Sirven et Christine de Viejancourt, maîtresse de Roland Dumas. Quelques mois plus tard, la France lève son veto, Roland Dumas poursuivi sera blanchi par la justice. Mais cette première instruction n'a pas levé toutes les zones d'ombre. Taïwan a payé à l'époque 16 milliards de francs pour les 6 frégates, soit 5 milliards de plus que le devis initial. Et c'est sur cette différence que le juge Renaud van Rundbeek a mené son enquête. Il s'agissait de savoir si une part de l'argent des contrats était revenue en France sous forme de pots de vin, ce que l'on appelle des rétrocommissions. Mais très vite, l'instruction des juges se heurte au refus des différents ministres, de gauche comme de droite, de lever le secret défense. Convaincu de l'existence de rétrocommissions, Roland Dumas s'élève contre cette loi du silence.
Les documents existent toujours. Je crois que le secrétaire d'État au budget de l'époque, qui était mon ami Michel Charras, a pris soin de les mettre à l'abri. Ce qui fait que peut-être un jour, on connaîtra la vérité.
Après cette défaite d'Edouard Balladur, c'est Jacques Chirac qui est élu président de la République, et apparemment, l'une des mesures qu'il prend dans les mois qui suivent, avec son ministre de la Défense Charles Millon, avec d'autres, c'est de couper les commissions concernant ce marché Agusta de sous-marins nucléaires au Pakistan.
Voilà, c'est-à-dire que quand il arrive au pouvoir, donc en mai 95, c'est quasiment, on va dire, c'est peut-être sa première décision. Il convoque Charles Millon, donc son nouveau ministre de la Défense, et il lui dit, texto, il faut s'attaquer au trésor de Balladur. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que Jacques Chirac est persuadé que sur deux contrats d'armement signés donc en fin 94, c'est-à-dire le contrat Agusta pour le Pakistan, le contrat Sawari 2 pour l'Arabie Saoudite, des sommes colossales ont été versées à des intermédiaires. dans le seul but de reverser sa